littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je m'appelle Emmanuel Bagot, je fais partie de l'association Forum Thalie. On est une association qui intervient depuis quelques années aux Utopiales dans le cadre de conférences. Et pour cette conférence consacrée au Tokusatsu, on a la grande joie d'avoir trois invités externes à l'association qui ont bien voulu venir. Alors, je vais les présenter d'abord. Tout au fond, nous avons Hugo Gélis.
Bonjour. Enchanté.
Voilà, Hugo, toi, t'es doctorant à l'université de Leipzig sur la production populaire japonaise, la culture Dōjin, si je ne dis pas de bêtises. À ta droite, il y a Julie Seta.
Bonjour.
Genre, toi, tu as fait des études sur la langue japonaise et tu travailles actuellement chez un éditeur de manga. Et enfin, tout à ma droite, juste à ma droite, il y a Marvin Ringard. Donc toi,
bonjour.
Tu fais partie de la communauté, tu gères une communauté consacrée au sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le Tokusatsu.
C'est ça.
Tu fais également des vidéos YouTube dessus
ça, et tu podcast.
Voilà. Et tu participes également à un podcast qui s'appelle donc Batoku sur le même sujet. Donc voilà.
Tout à fait.
Quelqu'un qui mérite d'être sur scène, du coup, de
par
ses nombreux crédits. Avant qu'on commence la conférence, j'aimerais vous demander qui dans la salle, si on vous dit le mot Tokusatsu, vous connaissez le concept ou pas, en fait? Vous levez la main. Oui, il y a pas mal de mains qui se lèvent.
Non,
c'est bien. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a prévu une petite vidéo qui, j'espère, va bien vouloir se lancer. Et je ne la vois pas. Hop, elle est là. Et donc j'espère qu'elle va bien vouloir se lancer. C'est pour vous donner déjà une petite idée, quelques images, voilà, de ce que ça donne. Par contre, il faut que je la mette sur l'autre écran, sinon ça ne marchera pas. Hop. Alors, ah non. Allez. Alors là, vous avez juste le son, ce qui n'est pas terrible.
Ouais.
C'est hop. C'est un début, effectivement. Voilà.
C'est la longue.
C'est ton nom. Regardez. Hop. Ah oui, pardon. Ah, excusez-moi, ça commence bien.
On va voir. Sur le thème, on transforme la vidéo.
Voilà, c'est ça. Hop. Donc, je vais faire pause sur la vidéo. Hop. Et je vous la mets. Voilà. Hop. C'est parti. Un petit peu d'image. Voilà. Alors du coup, Marvin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les images qu'on vient de voir ?
Oui. C'était tout simplement en fait un teaser pour le prochain film de Didier Akiano, donc qui s'appelle sobrement Shin Kamen Rider, qui est une réinterprétation de la série Kamen Rider de 1971. Et du coup là, c'était un teaser en mode on reproduit l'opening de la série d'origine.
Très bien. On va commencer pour présenter le toku, au-delà de vous montrer des images, de revenir un petit peu sur les différents grands événements ou grandes dates de ce genre. Du coup, je vais te redonner la parole, Marvin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le toku et pourquoi la date de 1950 ? Qu'on commence en 1954.
D'accord. Alors, en gros, donc tout simplement, voilà, tokusatsu, vous le voyez, on l'a résumé, c'est effets spéciaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des productions japonaises qui utilisent massivement des effets spéciaux. Donc, ça va être de la maquette, des explosions, du costume, puis tout un art du cadrage, voilà, à la japonaise. C'est vraiment un style de cinéma à la japonaise.
Et du coup, Godzilla.
Et pour le Godzilla, en fait, donc 1954, c'est la sortie du premier Godzilla, qui n'est pas le premier tokusatsu, mais c'est le plus symbolique, c'est celui qui a reposé les bases et qui a fait comprendre au cinéma japonais, ouais, on peut partir là-dedans. Donc ça a lancé derrière tout plein de films de monstres, de films de SF, en disant, on va utiliser les techniques utilisées par Godzilla. Ça a été popularisé.
Et donc vraiment, le toku, c'est cet art des effets spéciaux, du costume, etc. Quoi. Ouais. Donc t'as mis une image juste à côté du Godzilla en 1954.
Voilà, c'est entre deux tournages, il faut bien savoir se reposer un peu.
Mais... Il a l'air de vivre sa meilleure vie. Et du coup, le toku, lui, va vivre un petit peu aussi sa meilleure vie. Je vais revenir à Julie. Là, on était au cinéma. Mais du coup, ce qui arrive au cinéma, il y a toujours, dans ces années-là, un ping-pong entre le cinéma et la télévision essayant un peu de rattraper ce que fait le cinéma.
Oui, mais ce n'est pas tout de suite possible parce que les films de kaiju, c'est des films avec des gros effets spéciaux. Donc ça coûte cher et ça ne peut pas être produit à la télévision. Donc à la place, ce qui se développe, c'est le genre des héros masqués ou vigilantes. C'est un peu du Zorro à la japonaise. Il y a par exemple Gekko Kamen que vous voyez à l'écran. C'est des séries très longues. C'est une centaine d'épisodes de Gekko Kamen et il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux par rapport au film, mais ça va amener quelque chose au niveau de l'imagerie qui va être poursuivi plus tard.
On est dans le prototypage, quoi.
Ouais. Et du coup, le cinéma, lui aussi, continue, bien entendu, à mettre en scène ce genre de choses.
Donc, les films de kaiju continuent à bien marcher pendant une dizaine d'années, mais ça va entrer à la télévision à un moment, grâce notamment à quelqu'un qui s'appelle Tsuburaya, Eiji Tsuburaya, qui a travaillé pour faire les effets spéciaux de Godzilla. Il va créer sa société et lancer des séries, notamment Ultraman, qui va être un gros succès. Et Ultraman, ça emmène des monstres géants, donc des kaijus à la télévision, mais le concept en plus, c'est qu'ils vont se battre contre un héros géant, Ultraman. Et donc l'image du héros va rester au centre de cette série.
Donc on passe en gros d'un focus sur le monstre au focus sur le héros.
Tout à fait.
Et qui du coup, lui, c'est lui qui se transforme, quoi. Donc on va essayer d'avancer. On vous a fait une frise pour expliquer un petit peu les différentes licences, en tout cas les différentes dates des héros toku. Du coup, Hugo, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, et notamment des années 70 parce que là, on commence avec Gekko Kamen en 58, mais directement en 71, tu as Kamen Rider.
Oui, Kamen Rider, dont on a déjà vu quelques images. Et les années 70, le début des années 70, c'est une explosion du tokusatsu à la télévision. Le cinéma... Il n'y en a quasiment plus, c'est des grosses productions qui ne se font plus. Et entre les années 70 et 75, on a 45 séries qui sont produites donc à la télé, qui sont parfois sur le même créneau horaire sur des chaînes différentes, donc ça se bastonne un petit peu pour avoir les téléspectateurs. Et c'est vraiment la cristallisation du genre du super-héros, ce qu'on appellera maintenant le Henshin Hero, le héros qui se transforme. Donc, tant au niveau de l'esthétique, des types de production, du marketing, des scénarios. Et il y a un renouvellement des créations et des créateurs et des thèmes. C'est-à-dire que on a Godzilla, Ultraman qui sont avec aux effets spéciaux Tsuburaya Eiji, qui lui a fait la Seconde Guerre mondiale. Mais en tant qu'adulte, il faisait du cinéma, il faisait des effets spéciaux sur des films de propagande. Donc là, à cette époque, c'était pas de la science-fiction, c'était des avions, c'était la guerre.
Et c'est quand tu dis, pour préciser, les films de propagande, c'était pour la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc c'était vraiment des films de propagande pro-empire japonais, etc. Il y a même des gens qui venaient pas du tout de cette culture politique, qui étaient forcés de faire ce genre de choses. Et de manière générale, la politique interne du pays influence sur ce qui est diffusé en tant que toku.
Oui. Et donc après, dans les années 70, arrive une autre génération. Une génération, généralement, qui n'a pas vécu la guerre en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant. C'est une génération profondément traumatisée et qui va amener un autre regard sur le héros de Tokusatsu à la télé. Parmi les plus connus, qui je me permets de citer, c'est Shotaro Ishinomori, qui lui était un mangaka à la base, qui s'est retrouvé créateur de séries de tokusatsu, donc qu'on voit Kamen Rider en 71, Goranger en 75 pour la Toei. Et
peux situer la Toei, expliquer ce que c'est
Toei qui est,
comme studio.
Oui, c'est un studio, c'est un gros studio de cinéma japonais et d'animation aussi. En tout cas, en tokusatsu, c'est les plus gros en animation.
C'est des...
Ça pèse bien. Ouais. Voilà. Oui, dire que maintenant, c'est Dragon Ball, One Piece.
Disons que maintenant, si au niveau mondial, on connaît Ghibli et que ce genre de choses, Toei, ça reste quand même un mastodonte.
C'est ça.
Ouais. Et...
En gros, ce qu'on peut dire, de toute façon, c'est que les années 70, c'est énormément de séries, c'est beaucoup d'expérimentation, oui. c'est des séries dans tous les sens, c'est de la folie créative, c'est un peu n'importe quoi, tout et n'importe quoi, mais c'est aussi ça qui est bon. Et en même temps, c'est là aussi qu'on va peut-être commencer à avoir certaines limites, j'ai envie de dire. Ils testent plein de choses et du coup, ils vont se rendre compte que voilà, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Et c'est ce qui va influencer un petit peu la suite des événements.
Ouais. C'est aussi comme
Vas-y, prends ton temps.
Oui.
On va enchaîner juste voir. On voit sur la frise notamment, il y a Spider-Man, ce qui peut paraître un petit peu bizarre. Donc, oui. On voit une alliance Toei Marvel en 78.
Oui, en fait, c'est Disney en a parlé dans un documentaire sorti il n'y a pas longtemps, Marvel 616, si je ne me trompe pas, où finalement ils reprennent la paternité de ce Spider-Man qu'ils ont ignoré et mis au placard pendant des années. C'était un producteur de Marvel qui s'est dit comme le tokusatsu, ça marche bien. Il y a beaucoup de productions, il y a beaucoup de recettes, entre autres avec les jouets, et il est arrivé avec les licences de Marvel, la Toei. Il est allé les voir. La Toei a fait « On veut Spider-Man ». Ils ont produit un Spider-Man pendant, il me semble, un an qui n'avait rien à voir. Ce n'était pas Peter Parker, c'est un Japonais qui a les pouvoirs d'une araignée de l'espace, qui se transforme avec un bracelet technomagique et qui va savater des gens et qui a aussi un robot géant qui s'appelle Léopardon et qui est le premier robot géant transformable. Il y avait déjà l'arrivée du robot géant dans le vocabulaire du tokusatsu, mais c'est bizarrement Spider-Man qui a amené cette particularité, le robot géant qui se transforme.
Un bracelet toco-magique, un robot géant, on est vraiment aux utopiales quasi. Bon, c'est un cocktail qu'on trouve. On voit également sur la frise, et là je vais te redonner la parole Marvin, mais c'était sur le club d'eau. Et du coup, qu'est-ce qui arrive sur la France? Parce que là, on l'a dit, il y a une bouillie créative, c'est vraiment une folie créatrice qui s'empare.
Il y a forcément des choses qui arrivent chez nous.
Voilà. Et ça arrivait jusqu'à chez nous? Ça a traversé tout?
Ouais, bien sûr. Alors, pas tant que ça, mais il y a eu quand même son petit âge d'or, j'ai envie de dire, tu vois.
Là aussi.
Comment?
Là aussi, du coup.
Oui, bien sûr, aussi. Mais on est dans les années fin 70, début 80. Donc, il y a c'est pareil pour l'animation japonaise. Elle commence à arriver en France. C'est genre la France découvre qu'il y a des séries pour enfants pleines d'action, parfois très violentes. Voilà, parce que c'est l'époque qui veut ça. Et donc, on apporte aussi un petit peu de tokusatsu. On a là pour citer les plus connus, et c'est ceux qu'on a cités dans la frise. Voilà, on a du Gavan, donc qui a été renommé XOR chez nous, donc qui est le Metal Hero, c'est une franchise de Toei dans les années 80. Voilà, c'était une armure rutilante, c'est très influencé par Star Wars parce que
à ce moment-là, il y a eu Star Wars.
Voilà, et qui a laissé une patte assez visible sur toute la production. Et donc on a eu ça, on a eu du Bioman, donc c'est une des séries de la franchise Super Sentai. Voilà, ça, c'est les deux plus marquants. Après, on a eu plein d'autres pendant 10-12 ans. Tu vois, en France, on a eu ça. Après, ça s'est un petit peu tassé parce qu'il y a eu aussi un concurrent, quelqu'un qui a un petit peu pris la relève.
Oui, voilà, il faut en parler. C'est un peu l'éléphant dans la pièce. Et c'est Hugo qui a bien voulu s'en charger. On parlait des Power Rangers. Fatalement, on ne peut pas aborder le sujet.
Oui,
pourquoi est-ce que cette licence fait autant, on va dire, débat, en tout cas, parmi la communauté des gens qui regardent du toku?
Parce que ça a une position un petit peu étrange, parce que très souvent, en tout cas ma génération qui est arrivée après Bioman, on a découvert le tokusatsu par Power Rangers, donc on peut pas jeter ça à la poubelle, mais ça reste une série assez problématique sur son mode de production. C'est-à-dire qu'on a un producteur américain, Haim Saban, qui est arrivé, qui a sûrement vu que Bioman et les 2-3 séries qui ont été diffusées en France, ça marchait plutôt bien. Il est allé voir des diffuseurs américains avec les épisodes originaux doublés. On lui a dit non. Et finalement, il est tombé sur une productrice de la Fox qui lui a fait « Ok, mais on retourne toutes les scènes sans costume avec des teenagers américains qui vont au mall et jouent au basketball. »
Et qui ont 30 ans.
Oui. Fatalement. Ah, je me sens très jeune d'un coup. Il y a une réécriture complète du scénario original de les premiers Mighty Morphin Power Rangers. C'était Zio Rangers, c'était si je ne me trompe pas, une tribu ancestrale de
avec les dinosaures. Oui, totalement.
Et du coup, là, on se retrouve avec des Américains des années 90 qui sont au lycée et qui vivent leur vie quotidienne et se battent contre des méchants, très méchants, toujours.
En gros, c'était Parker Lewis avec, qui finissait sur un combat de robot géant. Quoi. C'était simplement.
C'est limite une caricature de ce qu'on pourrait penser si on disait l'américanisation. Quoi, vraiment.
Oui. Ouais. Ah, c'est totalement. C'était, c'est finalement le côté, on voit la xénophobie d'Hollywood qui est comme... bien sûr que non, nos petits-enfants américains, ils ne vont pas s'identifier avec des héros asiatiques, il faut absolument mettre des Américains.
Et puisque tu parles d'Hollywood, entre guillemets, le pire, c'est que ça marche.
Oui.
C'est un carton absolu.
C'est un carton phénoménal. J'ai les chiffres là. En 5 semaines, c'est un carton phénoménal. Et au Noël qui suit la première diffusion, en 93, on a 19 millions de dollars de recettes, ce qui était 6 fois les prévisions. Et c'est surtout sur la vente de jouets. Et sur la vente de jouets, personne n'y croyait, en fait. Donc du coup, on avait Bandai, qui produit au Japon les jouets Super Sentai. Vu que Zuranger c'était à la base un Super Sentai, ils ont envoyé les moules et la production aux États-Unis. Ils étaient sous-sol sur le marché, ils ont tout raflé.
Et ça a eu un effet aussi, pour le coup, tragique, qui est du blocage de licence.
Oui. Oui, oui, ce qui fait que maintenant, c'est la licence Power Ranger qui a les droits exclusifs du Super Sentai. Il me semble qu'ils ont aussi acheté les droits de Kamen Rider, ils ont fait une série, et quelques Metal Hero aussi, Beetleborgs. Et toutes ces séries-là, à peu près de la Toei, sont bloquées dans les pays occidentaux, donc principalement Amérique et Europe, tandis qu'en Asie du Sud-Est, eux, ils ont des traductions, des doublages directs des productions japonaises qui ont aussi leur petit succès là-bas.
Pour conclure un peu sur cette historique, je vais te redonner la parole. Julie, tu peux, est-ce que tu veux nous donner en résumé les grandes franchises, les grandes licences du toku et celles qui sont toujours actives en fait?
En fait, curieusement, c'est les mêmes. Le dimanche matin, il y a quelque chose qui s'appelle Super Hero Time et dedans, c'est les héros de la Toei, Super Sentai et Kamen Rider. Et il y a aussi Ultraman qui marche toujours. Mais ce qui est intéressant pour Ultraman et Kamen Rider, c'est qu'il y a eu un espèce de hiatus dans les années 90. Parce qu'il y avait les animés, d'autres choses qui marchaient mieux. Mais c'est revenu, c'est un peu comme Doctor Who, et il y a eu un renouveau dans les années 2000. Et une autre franchise que j'aime bien citer pour les années 2000, c'est Garo, qui est du tokusatsu pour adultes, et donc qui utilise des techniques un peu différentes.
Et du coup, oui, parce que tu parles de tokusatsu pour adultes, et Hugo en a parlé aussi, l'important c'est aussi la vente de jouets, on y reviendra. Mais avant de s'attaquer à ça, tu parlais de techniques, on va justement en aller, parce que on a vu quelques images tout à l'heure de Toku, enfin en tout cas une bande-annonce, mais on va essayer de maintenant de s'intéresser un petit peu à comment on fait ce genre de production. Parce que là maintenant on a un peu situé où quand est-ce que ça s'était fait, mais maintenant comment on fait ce genre d'image, comment on fait ce genre de produit. Alors quand on parle de super-héros vu d'un point de vue on va dire européen, on a tendance à penser aux États-Unis, à Superman. On a vu Spider-Man qui était un cas un petit peu particulier, mais quelle est la différence, Marvin, entre justement un super-héros tel que le font les Américains et le font les Japonais, et l'ont fait les Japonais. Ouais.
Alors déjà, tout simplement, c'est une histoire de format. C'est-à-dire que basiquement, le super-héros américain, c'est du comics avant tout, et après, tu as éventuellement des adaptations, des trucs comme ça. Et pour les Japonais, c'est un format télévisuel. Ce sont des productions qui se sont vraiment concentrées, qui se sont développées, construites autour de la télévision, donc avec ses limitations, parfois ses avantages, et c'est ça qu'ils en tirent parti. Donc c'est pour ça que le tokusatsu, le héros de tokusatsu, c'est un truc en live action, quoi. C'est de la télévision. Même le cinéma, finalement, c'est assez minoritaire. C'est vraiment un art télévisuel.
Et surtout, c'est un art télévisuel. On en revient à la thématique de ces utopiales, vraiment de la transformation, quoi. Ouais. Parce que là, on pourrait penser, par exemple, que les Japonais s'inspireraient d'un manga pour en faire un toku. Alors, j'imagine que ça doit arriver.
Ça peut exister, ouais.
Kamen Rider, c'est les deux à la base. Donc.
Mais vraiment, les Américains, eux, se basent sur un comics, là où les Japonais peuvent produire quelque chose vraiment du live pour la télévision.
C'est ça. Ça, c'est pensé directement comme ça, quoi. Ça se ressent en plus même dans l'esthétique, parce que c'est à ça aussi qu'on va les reconnaître. C'est-à-dire que les Américains, généralement, quand ils vont faire des héros avec des concepts, des designs un peu foufou, un peu barré, un peu spéciaux, ça sera toujours un peu marketé justement comme un peu à part.
C'est l'attraction, quoi.
Alors que les Japonais, en fait, c'est la norme. C'est tout simplement là, eux ils ne se refusent rien.
La folie est le nouveau normal.
C'est ça. Alors des fois, on va peut-être le voir un petit peu après sur l'aspect technique pur, ils peuvent rencontrer des barrières, des limites, mais d'un autre côté, voilà, ils vont rien se refuser. Là, vous avez mis quelques extraits, enfin des quelques exemples, on retrouve des voilà différents en haut à gauche, on a des Kamen Riders qui ont plein de styles différents, on a des grosses créatures forme animale voilà en bas au milieu. Enfin voilà, il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans le Tokusatsu, c'est ça qui est cool parce que c'est une certaine liberté créative. Ils ne se refusent rien parce que c'est à la télévision, parfois parce que ça touche les enfants, mais voilà, ils font en termes de design, ils se permettent un petit peu tout et n'importe quoi, et c'est pareil aussi autour de la transformation puisque c'est vraiment un axe principal de leur culture, de leur esthétique.
Et sur, pour donner un exemple, en fait, Kamen Rider, c'est un insecte, soit typiquement.
À la base,
Je sais que maintenant, il y en a d'autres. Enfin, oui. Si vous avez d'autres exemples de choses, d'autres exemples de choses un petit peu qui pourraient paraître folles pour un Américain, mais pour une série japonaise.
Par exemple, il y a un Sentai. Le thème, c'est des trains. Donc les costumes sont basés sur des trains.
Et celui-là, bizarrement, il n'a pas été adapté en Power Rangers.
On se demande pourquoi.
Peut-être moins de trains aux États-Unis.
Il y en a pour tout ça.
Mais du coup, maintenant qu'on a nos héros, enfin qu'on vous les voyait d'ailleurs à l'écran, on va peut-être dire alors qu'est-ce qui leur arrive. Du coup, c'est une paraître une question toute bête, mais une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui leur arrive. Qu'est-ce que ça raconte en fait un toku.
Il y a des thèmes de base qui sont dans les fondements du tokusatsu, notamment pour Kamen Rider, l'histoire de la justice. Qu'est-ce que la justice? Elle est beaucoup moins manichéenne que dans les productions américaines, puisque déjà, le Kamen Rider d'origine, il a été modifié par les ennemis, et c'est souvent le cas dans les séries Kamen Rider, son pouvoir vient du mal. Après, ça évolue avec le temps, parce que comme on l'a dit, ça faut bien revenir sur ça, les séries, chaque année, il y a une nouvelle série, donc chaque série a ses propres thématiques. Et il y a l'importance du motif, c'est ce qu'on disait avec les costumes, à chaque fois il y a une thématique. Par exemple, Gaim, à la fois c'est les fruits, mais aussi samouraï, donc ça mélange à la fois des questions d'honneur, mais les fruits c'est pour un côté plus fun, et aussi une métaphore du jardin d'Éden qui est dedans.
C'est-à-dire que l'écriture est un vrai mélange entre totalement sérieux et totalement déconne, quoi.
C'est ça.
Est-ce que ça peut switcher de l'un à l'autre comme ça, sans problème?
Oui, parce qu'en plus, comme il y a des épisodes, par exemple, l'été, c'est connu qu'il y a des épisodes un peu plus funky que dans le reste de l'année, parce que comme les enfants sont en vacances, il y en a qui vont manquer les épisodes, il y a des histoires de takoyaki, ce genre de choses.
Et il y a des épisodes de Noël aussi, où on a des morts tragiques.
En fait, c'est un petit peu comme certains... Enfin, tu parlais du créneau Super Hero Time, mais en fait, l'écriture suit à la fois son époque. On l'a dit, dans les années 70, quand il y avait un peu plus... Alors, j'aime pas trop le terme, mais il y a des trucs un peu plus dark, quoi. Un peu plus sérieux.
Oui, parce que les années 70 au Japon, c'était quand même assez secoué. Donc il y avait la sortie de la guerre, il y avait des révoltes étudiantes dans les années 60. Ils ont eu leur équivalent de mai 68. Donc et même le
rapport aux Américains aussi peut-être.
Oui aussi, l'occupation américaine. Donc on a des héros qui ne sont pas comme je lui disais, Kamen Rider. Ses pouvoirs viennent du mal. C'est un étudiant lambda qui a été transformé par une armée de pseudo-nazis. Donc, on a des héros qui se questionnent déjà sur la justice, sur ce qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait. Et il y a certaines séries qui abordent des thématiques un petit peu moins joyeuses.
Mais après, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que ce sont donc des séries qui se renouvellent vraiment chaque année et qui, en termes de thématiques, vont aussi brasser large parce qu'on s'adresse quand même plus souvent à un public jeune, et c'est pas un mal. Et justement, en fait, ça permet d'aborder plein aussi de thèmes sociaux. C'est-à-dire que, effectivement, dans les années 70, on pouvait voir certaines tendances parce que, il y avait un contexte, qui était assez particulier. Là, maintenant que les choses ont un petit peu évolué, on va retrouver pas mal de petits questionnements, un peu sur la vie de tous les jours, sur la société. Parfois, des trucs un peu plus larges, hein. En vrai, des séries Kamen Rider, des fois, on se rend compte qu'avant aborder quelques thèmes un petit peu plus sérieuses, hein, qu'elles vont aborder de manière pour les enfants, mais le thème de la guerre, par exemple.
Ben oui.
Tu vois, mais genre, non, mais c'est vrai, ça sensibilise un peu, c'est vraiment une volonté et tout. Enfin, il y a vraiment. Ce qu'il faut garder, c'est que ce ne sont pas des séries idiotes, en fait.
Ah non,
sont pas, elles peuvent être un peu folles dans la mise en scène et tout comme ça. Mais
c'est justement parce qu'on s'adresse à des enfants qu'on ne peut pas être idiot, justement.
C'est ça qui fait la qualité d'une série.
Et justement, ça s'adresse. Le public cible, c'est les enfants, mais il faut prendre conscience aussi que les parents regardent avec.
Oui.
Notamment les vieux fans, mais aussi beaucoup les mères. Et ça, c'est vraiment pris en considération dans les scénarios. Souvent, j'avais rencontré des mères de famille qui regardent Kamen Rider, et elles me disaient, au début, je regardais comme ça avec mon enfant, mais je me suis vraiment prise à l'histoire.
Une double lecture.
On est tous des grands enfants. Non, puis après, pour en venir un petit peu là-dessus sur l'écriture, c'est aussi, on écrit aussi, et t'en parlais un petit peu, Hugo, pour les ventes de jouets. Il y a également, parce que le parent qui regarde, bah, c'est aussi celle ou celui qui achète derrière les jouets.
Convaincre.
C'est celui qui regardait avant, et aussi, c'est ceux que, comment dire, les plus vieux, c'est ceux qui, les anciens fans qui recréent après derrière.
Et qui ont quand même les cordons de la bourse, donc il faut, on peut pas les choquer trop non plus. Mais justement, c'est vraiment important de dire, quand on s'adresse à des œuvres pour enfants, que c'est important que ce soit pas idiot, justement parce que c'est pour des enfants. Et maintenant, cette slide, en fait, on l'a montré, c'est pour voir un peu comment c'est fait. Alors, d'une manière un peu plus technique. Du coup, Hugo, est-ce que tu peux nous en dire, voilà, comment tu fais ce genre de choses, en fait?
On le fait avec pas d'argent, quasiment. c'est le tokusatsu, c'est des effets spéciaux, mais sans argent. En tout cas, le tokusatsu à la télé, c'est, on le voit sur les slides, des acteurs, des trampolines, des maquettes, des explosions. Encore des maquettes et encore des explosions, et des costumes et des explosions.
Est-ce qu'il y a des explosions ?
Oui, il y en a. On a des acteurs spécialisés, des cascadeurs, des suit actors, donc qui sont spécialisés pour jouer en costume, donc pour représenter un héros qui s'est transformé en Ultraman, un Kamen Rider ou un Spider-Man. Et on a par exemple un acteur ici, Seiji Takaiwa, qui était Kamen Rider pendant quasiment 20 ans, le Kamen Rider principal. Donc il a dû adapter son jeu corporel à une vingtaine de personnages différents. Donc c'est pas lui qui fait non plus les voix de ces personnages, c'est l'acteur original, ce qui fait aussi que les acteurs face découverte doivent aussi faire du doublage, de la post-synchronisation, donc un petit peu comme dans l'animation. Et il faut voir aussi qu'il y a eu un renouvellement sur les acteurs, et comme on en parlait avant, que c'est un peu pour les mamans. Avant, on avait à l'époque de Bioman, donc dans les années jusqu'aux années 80, ça a dû changer dans les années 90. C'était des acteurs qui étaient c'était des acteurs cascadeurs formés à l'action, qui venaient du Japan Action Club, qui a été créé par Sony Shiba, un acteur d'action japonais. Et maintenant, on a plus des acteurs qui viennent d'agences de mannequinat. Donc, ce sont des beaux gosses qui font plaisir aux yeux.
Il faut plaire à maman, quoi.
Oui.
Après, c'est pas forcément.
C'est pas que ça, mais.
Bien sûr, mais voilà.
Oui, ils s'entraînent beaucoup et il y a pas mal de blessures. Ils font pas mal de cascades, il y a pas mal de blessures dans le tokusatsu. Ce ne sont pas des choses graves, mais...
Aujourd'hui, mais peut-être que dans les années 70...
Avant, les normes de sécurité ont bien évolué. Là, on voit en bas à gauche le Spider-Man japonais, l'acteur qui était en train de courir alors qu'il y avait un artificier derrière qui faisait exploser les bombes. Tous les feux d'artifice derrière lui, donc ça devait aller vite. Et il y en a beaucoup d'anciens acteurs, et même d'acteurs maintenant, qui témoignent de blessures plus ou moins graves.
Sans compter le poids du costume, enfin, t'en as un peu parlé là.
Oui, on n'est pas bien, on n'y voit rien, on sue. Le costume de Godzilla original, c'était une horreur, on en sortait des seaux de sueur, et c'était, je pense que les acteurs ont dû s'évanouir plusieurs fois en le portant. Et là, maintenant aussi, les techniques ont évolué, on a quelque chose de plus agréable à porter. Et on peut faire aussi des scènes d'action un petit peu plus convaincantes, vu que les costumes sont mieux articulés et plus, comment dire, plus simples à porter et à mettre.
En fait, il faut juste garder à l'esprit aussi que beaucoup de designs aussi sont pensés. T'as le designer qui va faire une première ébauche. Il faut aussi qu'il garde quand même en tête que derrière, va falloir le faire, ton costume.
Il y a un vrai monsieur dedans, quoi.
Voilà, il y a un vrai monsieur et tout. Genre, enfin, par exemple, même il y a pas si longtemps que ça, genre il y a une série qui s'appelle Changerion, où le héros principal, il a une grosse armure et tout. Et en fait, on sait que son cascadeur sous le costume. À un moment, il y a une scène qui se passait dans l'eau. Il a failli se noyer parce que le truc, c'est que en fait, on sait que ce costume, c'était une horreur à manipuler. Et alors en plus, quand tu rajoutes des contraintes, genre ton costume, il est à moitié sous l'eau et tout, enfin, c'est une horreur.
Puis j'imagine qu'il y a des contraintes de temps aussi, parce que si tu disais qu'il n'y a pas d'argent, ça veut dire qu'il n'y a forcément pas le temps, puisque s'il faut faire un épisode très régulièrement.
Oui, on part dans une carrière, on tourne 4 scènes d'action de 3 épisodes et puis on repart.
J'allais faire une comparaison avec Plus belle la vie, mais ça tourne aussi au
il y a moins d'explosions.
Je ne sais pas, je ne regarde
plus
pas.
Plus de drama et moins d'explosions.
Plus de drama et moins d'explosions. Mais du coup, bon, là, on parlait des techniques un petit peu il y a quelques années. Marvin, est-ce que ça a évolué, j'imagine, depuis?
Oui, ça évolue. Maintenant, ça embrasse quand même, bien sûr, les évolutions technologiques comme le numérique. Alors, on sait que, bien sûr, ça ne sera pas au niveau de ce que font, par exemple, les Américains qui ont des budgets illimités. Et en même temps, c'est aussi une partie volontaire parce que, il y a finalement cette idée de, même quand tu modernises, même quand tu vas dans le numérique, quand voilà toute cette imagerie-là, bah, t'as quand même envie de garder cette esthétique.
Ouais.
Parce que bah, les années 70, même tout ce qu'il y a avant, toutes ces années à faire du tokusatsu, à vouloir transmettre ces codes, au bout d'un moment, ce sont devenus des codes ancrés. Ce sont des codes esthétiques, visuels, des codes narratifs. Et c'est des choses qu'on fait un peu évoluer, bien sûr, mais qu'on va transmettre, qu'on va garder, ouais. Parce que c'est ça qui définit le tokusatsu.
Ouais, par exemple, un des effets qui est souvent utilisé dans le tokusatsu, donc depuis Godzilla, on y revient toujours, c'est utiliser des maquettes. C'est, on va mettre notre acteur en costume au milieu d'une ville représentée en maquette, ce qui va permettre de faire un jeu d'échelle et de le faire apparaître comme un géant. Et quand on passe ça en numérique, on a toujours cette impression d'être dans un décor de maquette. C'est pas, il n'y a pas une visée vers le photoréalisme, mais plutôt un réalisme de ces effets spéciaux artisanaux.
J'imaginais même pas le temps qu'il devait y avoir à l'époque pour préparer l'intégralité des maquettes.
Ah, mais ça prend encore du temps, c'est encore utilisé comme technique.
Ouais. Hein. Ultraman, c'est toujours de la maquette, mais il y a du numérique et tout, mais il y a aussi beaucoup de maquettes.
D'accord. De quoi mettre, c'est pas sorti en PLS du coup.
Non, il faut pas leur montrer. Hein.
Voilà. Maintenant qu'on sait tout ça, on en avait un peu parlé. Du coup, on va revenir un peu à l'argent et du coup à ce qui est, ce qui est important quand même malgré tout pour produire ça, c'est les jouets, le transmédia. Du coup, on l'a dit, le but du jeu, c'est que ça soit regardé par des enfants, également leurs parents. Leur but du jeu, c'est de vendre du jouet. Mais pas question bête, est-ce que ça marche?
Oui.
Alors, fin de la conférence.
Voilà, oui. Non, mais comme vous le voyez sur la slide qu'on a préparée, il y a plein de trucs. Déjà, rien que dans les catalogues de jouets ici, on voit du Power Ranger. Peut-être un petit peu moins maintenant, mais il y a pas mal de choses sur plein de formats différents. Et finalement, ce qui rapporte de l'argent quand on produit du tokusatsu, en tout cas quand on fait à la Toei, à la Kamen Rider, à la Super Sentai, c'est le produit dérivé et c'est principalement le jouet. Vendre un programme à la télé, c'est peanuts, c'est surtout le programme télé qui va servir de publicité géante pour vendre des produits dérivés.
Et même le film au final.
Oui, le film est un produit dérivé comme un autre, hein, parce que tous les ans à peu près il y a un ou deux films qui d'une qualité cinématographique variable. Discutable, mais avec des nouveaux jouets à vendre. Et oui, c'est tout ça, c'est sur un modèle de transmédia, c'est-à-dire que l'histoire, les personnages, l'univers est décliné sur plusieurs médias, comme ça se fait souvent au Japon, et sur le modèle de ce qu'on appelle le media mix, qui est pas tout à fait, qui veut pas dire qu'on a un scénario qui se suit sur plusieurs médias, comme on le voit plutôt chez nous, mais un personnage qui va être reproduit sur plusieurs médias et être consommé sur différents supports. Donc on a le personnage en jouet, on a le personnage dans les magazines, on a le personnage sur la borne d'arcade, on a le personnage sur les chaussettes, sur la cravate, parce qu'il faut vendre aussi aux adultes. On a les jouets. Les jouets d'ailleurs qui sont généralement les jouets japonais qui sont de très bonne qualité, qui fait que les adultes aussi les aiment aussi comme des jouets de collection.
Je vois qu'on a prouvé là de ce côté-là.
Oui, ce qui est vraiment bien pensé, c'est qu'il y a différentes gammes de jouets. Donc il y a celui qui va coûter quelques euros, 2-3 euros, qui sera juste, c'est les sofubi notamment, ça veut dire soft vinyle, c'est basique, on peut pas l'articuler. Après, il y aura d'autres gammes, la figurine articulée qu'on peut mettre dans des positions, et maintenant il y a même des gamme pour adultes, par exemple CSF, pour adultes dans le sens où c'est de la qualité plus haute et ça va être plus 200 euros la figurine, et c'est pour un côté exposition. Et d'ailleurs, il y a un épisode de Kamen Rider Wizard qui parle d'un père qui collectionne les figurines et son fils veut jouer avec.
Et là, c'est le drame.
La boucle est bouclée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ce que vous avez ramené du coup sur la table pour donner un exemple concret? Je crois que c'est à toi, Marvin.
Celui-là, voilà, ça c'est une petite peluche d'un personnage qu'on pourra développer peut-être un petit peu après, mais ce qui s'appelle les local heroes. Donc, ce sont d'autres types de super héros.
Je suis désolé, on le fait pas gagner à la fin, mais.
Et du coup, je t'ai rien dessus.
Voilà, non. Et du coup, l'autre peluche.
Moi, c'est The End, une peluche Kamen Rider. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, notamment Bandai a développé des jouets pour femmes des produits pour femmes adultes et pour comme des tote bags, des tenues, et c'est un peu plus kawaii avec les proportions, la grosse tête.
Il pense à tout le monde, quoi.
Il pense à tout le monde.
Attention, le film.
Il va tomber. On fait des cascades.
Ouais, c'est, y a un autre truc qui est aussi intéressant sur les jouets et sur la production, c'est que quand on produit une série de tout ce qu'il y a sous, on est là pour vendre du jouet, et donc il faut anticiper toute la gamme des jouets de l'année. Parce que quand on sort des robots géants transformables et qui se combinent, bah, il faut qu'ils se combinent aussi avec le robot, le nouveau petit robot qui va faire un encore gros méga robot qui va sortir en plein milieu d'année.
Donc c'est vraiment un comité qui pense tout ça, quoi.
Oui, c'est vraiment, il y a un gros travail de design.
Ce qui veut dire aussi que tu peux pas détruire des personnages, parce que du coup, si tu le détruis, il peut plus se vendre en tant que figurine.
Oh, encore, il va être remplacé parfois, mais ouais, ça amène aussi dans cette pensée, dans ce design. C'est un mode de design où on a à la fois le jouet et le costume qui sont designés. C'est-à-dire que un costume qui va être infiniment transformable. Les Kamen Rider généralement, ils ont 3, 4, 5, 6, 7 formes et encore. Donc il y a des parties amovibles. Quand on a un robot géant transformable, par exemple, si le visage change et se retrouve à un moment dans la transformation sur le pied, bah sur le costume qui est à la télé, on va voir le visage sur le pied. Et ce genre de choses. Il y a une espèce de réalisme du jouet.
Je voulais dire un autre jouet important, c'est la ceinture de transformation ou l'objet de transformation. Du coup, l'enfant devient vraiment le héros. Et comme tu le disais, on peut ajouter des accessoires. Par exemple, Gaim, au début, il a juste l'objet orange et après, il aura d'autres fruits. Fraise, banane, c'est vrai en plus.
En fait, voilà, il y a vraiment un lien entre on développe une connexion entre vraiment la série et le spectateur grâce à ces jouets. C'est-à-dire, ça va plus loin que juste le petit produit dérivé.
Oui, ce que fait la série en elle-même, elle développe du coup, ça se retrouve derrière. Mais c'est pas sale non plus de faire de ce genre de choses. C'est des séries qui sont vendues, comme tu le disais, qui sont un objet publicitaire. Mais c'est pas parce que c'est un objet publicitaire que, comme on le disait en début de conférence, elles n'ont pas d'intérêt en termes de scénario ou quoi que ce soit.
Oui, c'est comme toutes les productions actuelle, il faut financer ça à un moment ou à un autre et c'est le modèle qu'ils ont choisi.
Avant de passer dans quelques instants aux questions de la salle, on va passer, t'en as un peu parlé Marvin, assez rapidement. Je dois dire que j'étais forcé d'en parler puisque Julie m'a vendu ça comme du Molière avec des explosions. Donc est-ce que tu peux nous parler des spectacles un petit peu?
Oui, c'est très important. Donc on parlait de MediaMix et ça s'étend sur scène. Donc comme c'est très facile de transposer des héros sur scène vu que c'est des costumes, donc il suffit de mettre le costume et on fait un spectacle. Et il y a les spectacles de base, par exemple dans les supermarchés japonais, partout. Il y a vraiment des spectacles de super-héros partout et ça permet de faire un lien avec les enfants parce que par exemple les enfants vont devoir encourager les héros. Ultraman va pas aller bien et il va y avoir quelqu'un qui va dire « encouragez Ultraman » et tout le monde va dire « Ultraman, vas-y ».
C'est guignol, quoi.
Oui, mais vraiment. Et il y a aussi des productions avec un peu plus de moyens, notamment la Toei à son théâtre où il y a tout le temps des spectacles Kamen Rider et Super Sentai et où va y avoir des effets, des explosions, des acrobaties, donc ça va au-delà de l'écran. Et du coup ça s'étend à la production amateur, semi-amateur, notamment il y a le phénomène des local heroes. Ça va y avoir par exemple un héros d'Okinawa, mabouilleurs, qui ont des costumes un peu typés sino-japonais vu que c'est et avec des dragons tout ça. Et il peut y avoir des héros pour tout, pour des firmes pharmaceutiques, pour des universités. Moi j'avais vu un festival où chaque université, Waseda, Todai, ont leurs héros et ils font des films. Vous pouvez les trouver sur YouTube d'ailleurs si vous êtes curieux.
Par exemple, voilà, ce petit personnage-là, en fait, c'est la mascotte qui existe avec un vrai costume et tout. Là, c'est une version peluche, mais c'est une mascotte qui représente une société de gaz japonaise. C'est genre EDF, GDF, ils ont leur mascotte, tu vois, voilà, c'est...
Les explosions, elles sont plus dangereuses.
Oui, c'est ça. Pour le coup, oui.
Ça a double tranchant.
Pour les explosions, oui. Le GDF, c'est.
Mais ouais, le local hero, c'est le culture de cette mascotte, du quotidien, héros de la vraie vie. Enfin, voilà, c'est le héros de la vraie vie qui transmet les bonnes valeurs et qui finalement, en fait, par le costume, en fait, il endosse finalement toute l'imagerie qu'il a aimée quand il était petit.
Sachant qu'on retrouve aussi ce genre de spectacle, notamment dans les centres commerciaux, où on le voit d'ailleurs dans des animés, il y a des moments donnés où je pense notamment, enfin là, je pourrais citer des exemples comme New Game, où il y a des personnages qui vont voir ce genre de spectacle.
J'ai même un autre exemple, Perfect Blue.
De Satoshi Kon.
Au début de Perfect Blue, il y a un spectacle de héros. Donc
c'est vraiment intégré.
On voit ça partout, en fait.
Et alors on pouvait pas terminer, ne pas parler de France 5. Marvin, est-ce que tu veux... Alors déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaît France 5 dans la salle? Oui, ça, du coup, c'est un petit peu connu quand même. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement? Parce que ça fait un lien quand même entre le toku japonais et la France.
Bien sûr, oui. Bah, c'est le symbole du rayonnement culturel du tokusatsu. Rien que ça. Le monde. Non, mais, en fait, c'est ça. C'est les gens qui ont grandi avec la génération 80 qu'on a vu tout à l'heure et qui se sont dit, écoutez, on va faire notre propre Sentai. Voilà, notre propre escadron de combat coloré avec un robot géant et tout. Mais ils le font dans le respect des codes déjà techniques du tokusatsu, parce qu'ils ont fait vraiment le costume du robot, ils font leurs propres effets spéciaux, ils reproduisent les cascades. Enfin, c'est vraiment un pastiche du genre Sentai à la française, les codes français. Mmh. Et ça a été fait avec beaucoup de passion. Ça a été fait donc entre 2000 et 2013 pour la série principale. Et c'est vraiment un symbole que le tokusatsu, en fait, il est vraiment présent un peu partout. Mmh.
Et c'était pas une parodie comme beaucoup de gens l'ont cru à l'époque.
Non, en plus pour l'avoir revu récemment, c'est vraiment hyper respectueux. Et de toute façon, il y a beaucoup d'amour. Enfin, les Japonais, en fait, ils ont découvert la série. Et ils ont adoré. Enfin, il y avait un regard neuf sur ce que eux ils consomment depuis 40 balais. Enfin, ils ont adoré quoi.
C'était le lien avec la France aussi. C'est le fait de voir la Tour Eiffel.
Je pense que c'est ça. Il y a la France qui les faisait un peu rêver. Et en plus, il y avait des super héros français avec toutes les codes français. C'était cool.
Il y avait même eu un générique, je crois, chanté par un...
Oui, Akira Kushida, qui est une immense star, à la fois dans le tokusatsu et dans l'animation, en termes de générique. Et là, ils sont allés en mode, écoutez, je vous fais un générique.
C'est
gratuit, bonjour. C'est offert. Voilà. Il y a un générique japonais, et c'est chanté par une grosse pointure du genre.
Ouais, il y avait même des doujins, de la production amateur, je crois. Ouais.
Il est présent et puissant.
Voilà, qui avait été fait. Alors, si jamais vous avez des questions, c'est le moment de les poser avant qu'on passe à la conclusion, donc n'hésitez pas à lever la main. Je vois quelqu'un au fond. Alors, comme il n'y a pas d'autres micros, je vais être obligé de te rejoindre. Ah bah voilà. Merci Yoka.
Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question. Est-ce que la création du tokusatsu, c'est de base quelque chose de mercantile, vraiment prévu pour vendre des jouets, ou ça part de quelque chose d'artistique au départ, de vouloir créer un programme jeunesse? Ou si c'est vraiment de la vente de jouets comme on a pu avoir avec G.I. Joe, par exemple, à l'époque, pour les dessins animés US.
Le créateur des plus grosses franchises étant un mangaka, Ishinomori Sotaro, je pense que ça venait plus d'une intention artistique.
Pour lui, peut-être, mais en fait, non, ça a été commissionné par Toei. Donc, en fait, comme il y a des boîtes derrière et Toei qui connectait à Bandai, non, il y a toujours eu le jouet derrière. Pas pour les films, mais pour les séries télé. Même Ultraman, il y avait des monstres et des jouets. Très tôt, il y a eu les jouets.
Après, effectivement, pas dans les mêmes proportions que maintenant. C'est vrai que ça a évolué. Bon, parfois, il y a peut-être par quelques dérives, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours eu une certaine volonté. On pense aux enfants, donc derrière, même dans fin des années 50, il y avait quand même cette idée de... C'était encore balbutiant, tu vois, mais il y avait quand même cette idée de... Il faut vendre quelque chose derrière, quoi, finalement, quoi. Mais c'est juste pas les mêmes proportions que maintenant.
Mais c'est pas incompatible avec une volonté artistique, non, justement.
Oui, c'est ça. C'est juste que pour Shotaro Ishinomori, c'est juste Toei qui a dit on a besoin de concurrencer Ultraman, tu pourrais pas nous designer un petit personnage, tu vois, qui pourrait se battre et tout, tu vois, genre prêt pour pouvoir faire des jouets derrière, quoi. Mais ça reste intégré. Bah.
Merci beaucoup pour la conférence, c'était super intéressant. Ma question porte sur un point que vous avez soulevé au débat, à savoir le coût, à savoir que tout était cheap et qu'il devait au maximum minimiser les coûts. Ça, c'était à l'époque. Je me demandais est-ce que c'est toujours le cas, parce que j'avais vu un scandale aux États-Unis où les acteurs étaient en grève et du coup, ils les ont tous virés. Ils leur ont dit « vous êtes remplaçables ». Je me demandais si c'est encore le cas.
Je pense que comme c'est de la télé, il y a toujours des moyens assez limités, et notamment au niveau des acteurs, il y a pas mal de témoignages d'acteurs qui disent que c'est pas des pays folles, mais justement souvent c'est des gars qui sont plutôt jolis et qui débutent, donc ça va leur permettre de se faire une image, de se faire un tremplin. Donc oui, c'est toujours un milieu où, en tout cas, la série elle-même a pas des moyens fous.
Après, j'ai envie de dire, c'est un peu culturel, parce que c'est pareil pour tout le cinéma japonais en général, où les grosses productions blockbuster à l'américaine, au Japon, t'en as pas tant que ça. Et puis surtout aussi, des fois, j'ai envie de dire, pour défendre un peu le tokusatsu télé, c'est faut pas oublier que ce sont des séries, par exemple pour les productions Toei comme Kamen Rider et Super Sentai, c'est quand même donc une série Sentai et une série Kamen Rider par an, donc c'est 50 épisodes, qui après est tout de suite remplacé par la nouvelle. Donc en fait, c'est un flux permanent dans la production. Donc il y a forcément quand même un peu plus de moyens, il y a des trucs qui sont mieux gérés, mieux maîtrisés dans la technique, mais bien sûr ça va rester entre grosses guillemets des productions à petit budget. Là, un peu en déconnant, on disait sans budget, mais c'est pas qu'il n'y a pas de budget, mais c'est vrai que c'est juste une production que en fait on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des productions américaines qui certes sont très jolies et tout ça, bah en fait le truc c'est qu'à côté de ça, l'équivalent d'un tokusatsu avec énormément d'épisodes, beaucoup d'actions, tout ça, bah en fait il n'y en a pas vraiment. T'en trouves pas vraiment dans les trucs américains. Donc c'est vrai que des fois, faut pas oublier que c'est beaucoup d'actions, c'est beaucoup d'effets spéciaux, et bah voilà, et vu le rythme, c'est dur à tenir.
Bonjour, merci pour cette conférence. Moi, je voulais vous faire remarquer que ici, en Loire-Atlantique, il y a un réalisateur, Stéphane Morel-Mogoma, qui est en train de préparer un tokusatsu qui s'appelle Enter the Code, donc code COD.
Oui.
Est-ce que vous en avez parlé?
J'ai entendu parler, oui, effectivement. Je ne sais pas si pour mes collègues, mais...
C'est une nouvelle.
J'attends. Il y a la petite scène indépendante française qui, effectivement, voilà, il y a un petit noyau, effectivement. J'ai entendu parler de ça, j'ai vu passer quelques images, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, effectivement. Je sais pas quelle est la fenêtre de lancement, peut-être surtout en ce moment avec ce qui se passe, mais effectivement, je connais un petit peu et ça a l'air plutôt prometteur. Mais c'est ça qui va être intéressant de voir du tokusatsu à la française. Dire bonjour.
Un grand merci pour la conférence, hein, c'était très intéressant. Moi, je voulais savoir, parce que du coup, quand on parle de production télévisée japonaise, ce qu'on pense en premier, c'est de l'animation. Mm-hmm. Et je voulais savoir, du coup, le tokusatsu, avec toute l'histoire que ça a pu avoir depuis les années 54, est-ce que des fois, il y a du coup des codes du tokusatsu qui sont rentrés par la suite dans l'animation, ou inversement, des codes de l'animation qui ont du coup pu influencer derrière le tokusatsu?
Je peux me permettre de répondre qu'effectivement ouais, les deux communiquent énormément. On a eu des influences dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que vous le verrez sans doute plus en détail tout à l'heure, mais une certaine licence comme Sailor Moon par exemple s'est énormément inspirée des codes du Sentai justement pour faire évoluer la formule Magical Girl, pour que ça devienne finalement un escadron de filles magiques, hein, si je vais le traduire un peu comme ça. Donc ça s'est beaucoup renvoyé la balle. Et même maintenant, par exemple, dans l'écriture des séries modernes, Kamen Rider, Ultraman et tout, on retrouve déjà naturellement des scénaristes qui viennent du milieu de l'animation. Et du coup, il y a des codes, des façons d'écrire des personnages qui viennent de l'animation qu'on retrouve dans le tokusatsu, qu'on retrouvait pas forcément avant. Donc ça, c'est aussi une preuve que finalement, ça se croise un petit peu. Sachant que du côté animation, il y a de l'influence. On verra peut-être quelques images tout à l'heure en guise de conclusion, mais voilà, il y a des animés qui s'inspirent aussi des codes du tokusatsu.
Juste, on avait commencé avec. Merci. On avait commencé par Hideaki Anno, qui est d'abord un réalisateur d'animation, qui maintenant fait du tokusatsu. Et puis même aussi dans les...
Situer Hideaki Anno, Evangelion notamment.
Evangelion, oui. Bon. Qui est du robot géant, donc un genre qui est parent du tokusatsu. Et aussi, il y a dans la production, il y a les acteurs de l'anime, des acteurs voix, qui vont aussi jouer dans des tokusatsu pour des personnages costumés ou parfois pour les petits jouets, pour les petites ceintures ou les petits bracelets ou pistolets de transformation qui vont tous avoir un petit jingle avec une voix professionnelle.
Comme tu as parlé de Sentai et de Sailor Moon, je voulais revenir sur le fait qu'en France, souvent, on a un abus de langage, on désigne le tokusatsu par le terme Sentai, mais à la base, c'est vraiment Escadron et c'est rattaché à Super Sentai, et c'est un abus de langage pour désigner tous les héros par équipe. Mais au Japon, cet abus de langage existe aussi. Et du coup, même dans l'animation, dans les mangas, les héros par équipe, ça s'est vraiment retrouvé dans les années 90, Saint Seiya, tout ça. Ouais. Donc il y a vraiment un ping-pong entre les médias.
Finalement, c'est très lié, quoi. Ils se répondent toujours.
Est-ce qu'il reste des questions, du coup, dans la salle? Oui, il y en a une là-bas, je vois, et puis on passera à la conclusion de cette conférence.
Oui, j'avais une question par rapport à ce ping-pong artistique, en fait, et je me posais la question, parce qu'il y a quand même eu un événement majeur quand les Américains ont pillé, on va dire, le tokusatsu avec Ain Saban et tout ça. Mm-hmm. Et du coup, je voulais savoir aujourd'hui, ce qu'il en est créativement, c'est-à-dire est-ce que les deux chemins vivent leur vie ou s'il y a encore des interconnexions, je ne sais pas, où, dans la mesure où c'était des stock shots qui servaient à faire Power Rangers et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, artistiquement, ça a influencé le tokusatsu actuel de manière à ce que ce soit réexploitable pour les Américains de l'autre côté ou je ne sais pas, des choses...
qu'on a dit. Il me semble, au niveau de production, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont traduit parfois quelques séries Power Rangers qui ont été retraduites en japonais.
Oui. En fait, ils continuent de les faire pour un public japonais, mais ils sont conscients du public américain. Déjà, il y a certains réalisateurs, Sakamoto par exemple, qui est un réalisateur très connu de Sentai et qui a travaillé pour Power Rangers. Donc, il y a vraiment des ponts entre les deux. Et ils savent les adaptations. Et il y a eu un Sentai qui a été adapté d'un Power Rangers. Go Busters, voilà. Ouais.
Enfin, pas adapté, mais qui faisait quand même plus ouvertement référence à Power Rangers. C'est limite, on vous fait la série pour vous. Genre, on vous prémâche le travail sur certains trucs, effectivement. Mais après, maintenant, sur les séries modernes, j'ai envie de dire que les Japonais, non, ils ne font pas spécialement de séries pensées pour eux. Voilà. Même si, en fait... Le truc, c'est que, alors, c'est pas un chiffre exact, mais on m'avait expliqué que, a priori, là, les séries Hasbro, parce que maintenant, Power Rangers, c'est détenu par Hasbro, mais c'est genre 80% d'images neuves américaines, et le reste, c'est le strict minimum en tant que stock shot. Ils tournent de plus en plus leurs propres scènes. Voilà, ils essayent pas de totalement couper le cordon, mais en tout cas, il y a quand même une volonté de faire un peu de neuf.
Du coup, je voulais juste dire, s'il y a des trucs Hasbro, est-ce qu'on pourrait avoir un toku My Little Pony un jour ?
Techniquement, ça peut être possible. Après, bah, techniquement, bonne chance pour la guerre en costume de poney. Hein.
Techniquement, Spider-Man est un Super Sentai déjà. Donc,
Très bien. Et peut-être une dernière question ?
Oui, merci à vous pour cette présentation érudite. Je me suis posé une question, effectivement, en vous écoutant. Je ne connais pas du tout le genre, et comme beaucoup d'entre nous, j'en ai peur. Le toku, pour moi, c'est un imaginaire d'expérience, de nostalgie, et aussi quelque chose qui a été parodié à de nombreuses reprises, notamment par les inconnus.
Ah oui.
Et quand vous avez fait la présentation, vous avez parlé du toku pour adultes, notamment Garo. Et je me suis demandé, mais de quoi ça parle ? Qu'est-ce qu'on fait dans du toku pour adultes, et comment on lutte contre cette dissonance cognitive du chip qui fatalement grandit quand on est plus âgé.
Garo. En gros, Garo, c'est effectivement, ça va être parfois des thématiques un peu plus adultes, ça va être une esthétique forcément plus adulte, on va se permettre plus de choses, forcément on va être un petit peu plus libéré. Dans le cas de Garo, c'est en fait la personne responsable du projet, c'est un certain Keita Memiya, qui est en fait un réalisateur japonais qui a, disons, toujours une envie de tester dans les techniques de réalisation. Ce qui fait qu'en fait, globalement, un Garo est plus abouti par rapport à ses confrères. Plus pour enfants. Après, ça se traduit aussi parce qu'il y a un format qui est plus court. T'as pas systématiquement une série par an, ta série fera grand maximum 25 épisodes et pas 50. Donc déjà, ça aide beaucoup, mine de rien, moins d'épisodes, plus de budget. L'équation est logique. Donc voilà, c'est une esthétique plus... je vais pas dire plus chiadée, mais qui est différemment faite. C'est quelque chose
dans les thématiques peut-être.
C'était le jouet aussi n'est pas intégré pareil dans la production. Oui,
ouais. Là pour le coup c'est le réalisateur Keita Miya qui pour le coup voulait se détacher un peu de ça. Il y avait vraiment une volonté de se détacher un peu. Alors que le gars il a commencé chez Toei, hein, tu vois, il a fait du Super Sentai, du Metal Hero et compagnie.
Et je trouve Garo c'est surtout dans les thématiques et l'esthétique parce que c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup la nuit. Et c'est des armures, on avait montré une image, des armures dorées, imposantes. Et au niveau des effets spéciaux, par exemple, il y a beaucoup de combats avec des fils. Parce qu'il y a beaucoup de combats sans costume dans Garo. Ouais. Et beaucoup de combats avec des fils un peu à la chinoise. Mmh. Et aussi, ouais, les monstres, du coup, sont beaucoup plus cruels. Il y a déjà de la cruauté dans Kamen Rider, parfois. mais beaucoup cruels, beaucoup plus sombres. Il y a aussi, un peu une imagerie plus sexy. Il y a beaucoup de filles sexy dans Garo. Ça,
mais sur les thématiques de fond aussi, ça va plus loin aussi
Oui, c'est... on reste quand même, par exemple, le premier Garo, c'est vraiment une thématique très chevaleresque. Mais moi, il y a une série que j'aime bien qui s'appelle Makai no Hana. Et chaque épisode a sa thématique, son Monster of the Week, mais c'est des trucs plus sombres, des histoires de meurtres, plus serial killer. Oui, l'ennemi, ça va pas être qu'un monstre. Parfois, c'est un humain. En fait, c'est voilà, c'est les aurores, c'est des choses qui prennent possession des humains et qui prennent les pulsions des humains. Donc, l'ennemi est humain dans Garo, entre guillemets.
Et moi, je voulais parler aussi d'un autre aspect pour de série pour adultes qu'on a, dont on n'a pas d'image. C'est Akiba Ranger, ce qui est une série de Toei auto-parodique du Sentai qui va viser les vieux fans de Sentai et qui donc là va jouer aussi avec avec les codes et joue avec le chip mais en ayant conscience et en l'utilisant pour faire de la comédie principalement, de la comédie autoréférentielle.
Ouais. Juste un dernier détail sur Garo, comme l'argent vient pas des jouets, il vient des pachinko. Donc non mais c'est intéressant de
faut toujours le pachinko c'est une sorte de jeu d'argent
jeu d'argent japonais
qui est réservé aux adultes quoi.
C'est ça, ouais. Ça viendra jamais des séries. Garo lui-même produit pas une tonne d'argent, ça vient vraiment d'une source extérieure.
Comme les autres, au final. Certains, c'est les jouets, d'autres, c'est le pachinko.
Voilà. Les petites billes.
Du coup, pour conclure, je vous propose de faire quelques suggestions, en fait, de choses que... Mince, je vais trop vite. De choses que vous pouvez regarder. Alors, en fait, en France, le tokusatsu, je pense que tu pourras me le confirmer, c'est compliqué d'en obtenir, en tout cas légalement, mais il y a des choses qui s'en rapprochent.
C'est ça, ouais. Là, par exemple, on va présenter quelques œuvres qui s'inspirent des codes du tokusatsu ou alors qui traitent du fan de tokusatsu.
Un peu comme ce qu'il disait sur Akiba Ranger.
Ouais, c'est ça, c'est la notion de fan. Ça, c'est une thématique aussi qui commence à rentrer pas mal depuis les années 2010, hein, parce que le tokusatsu c'est bien installé, c'est tu vois les codes sont connus.
Ça fait partie de l'enfance de tous les petits japonais. Hein,
c'est ça, c'est une image que tous les japonais adultes maintenant. Mais tu regardes pas les séries, tu connais.
Et du coup, on obtient des animés qui parlent de ça plutôt que les séries originales. Voilà.
C'est un peu triste. J'en suis premier déçu, on va dire. Mais ouais, parce que sinon, en fait, c'est vrai que il faut se tourner vers des moyens pas toujours très légaux.
Est-ce qu'on peut faire la liste de ce qu'il y a d'affiché sur la stack? Donc je vois Samurai Flamenco.
Alors Samurai Flamenco, donc c'est sorti chez nous, chez Daibex, je crois. Donc c'est quelqu'un qui en fait est fan de tokusatsu. Il est un peu local hero, donc il fait un peu le héros de la rue. Et puis il y a un plot scénaristique qui va le faire passer un petit peu du côté du vrai super héros. Mmh. Il va découvrir un petit peu l'envers du décor.
Et les Green Man du coup.
Voilà, il y a du Green Man, il y a du Dainese Note qu'on a eu récemment.
Ouais. Et aussi qui va arriver dans pas longtemps et qui un peu plus lié au tokusatsu directement, juste à côté de Samurai Flamenco, on a une image de Kamen Rider Double Futo Tantai Futo PI qui est littéralement la suite d'une série Kamen Rider d'il y a une dizaine d'années.
Ouais.
Qui est,
c'est ça, il y a eu un manga et là c'est l'adaptation du manga en animé.
Aucune idée de si ça va être accessible aux revenus.
Ça a été déjà licencié par Funimation qui est un ayant droit américain mais qui a une branche aussi européenne.
Oui, mais est-ce que ça va être accessible scénaristiquement pour le...
Ouais. Mais du coup, même en passant par les États-Unis, c'est compliqué à obtenir. En tout cas, légalement.
Ils ont quand même plus de choses. Format DVD.
Il vaut mieux parler anglais, quoi.
Ouais, c'est vrai que pour pas mal de choses, le tokusatsu reste en France assez peu accessible.
Après, à part les séries classiques,
c'est un peu mieux. Il faut savoir où s'aventurer.
Bon, en tout cas, on peut espérer qu'une chose, c'est que ça change.
Bien sûr.
Voilà. Donc, je vais vous remercier tous les trois. On va s'arrêter ici sur une superbe image d'explosion. Juste quelques mots de conclusion pour dire que on nous remercie les Utopiales une nouvelle fois d'avoir fait confiance à Forum Tali pour l'organisation des conférences et donc je voudrais remercier une nouvelle fois donc Hugo, Julie et Marvin qui sont venus pour faire cette conférence sur le toku et j'espère que ça vous a donné envie ou que ça vous a redonné envie d'en regarder et on se quitte sur cette magnifique image d'explosion. Merci à toutes et merci à tous.
Merci.
Et on reste sur si jamais certains s'intéressent, on aborde la thématique des animés de Magical Girl à 17h30 en salle Chai. Voilà. Toujours au nom de Forum Tali. Bon, merci. Bonne fin d'Utopiale.
Merci beaucoup.